Boomerang de Noël, avec une étoile de la cuisine que vous connaissez, qui nous a fait l'honneur d'un dîner, figurez-vous, d'un menu, pour celles et ceux qui, comme moi, pour ce soir, n'ont pas d'idée, le merveilleux Maurice Acco est dans Boomerang, c'est parti. Évidemment, c'est moi qui m'y colle et je suis là, dans la cuisine, avec 3 livres de recettes et mon ordinateur sur le frigo, à essayer de trouver ce qu'il faut pour que tout le monde soit content, à commencer par les ingrédients. Et plutôt que de me concentrer, vous me connaissez, je suis plongé dans mes pensées, et me revient ce livre de Marilyn Desbiol qui s'appelle La Sèche, et qui regorge de pages incroyables sur la cuisine, justement. Tout ce qu'on y fabrique, tout ce qu'on y dissimule aussi sous couvert d'un repas, de Noël ou pas. Elle écrit, et ça me semble si vrai, aujourd'hui plus que jamais, jamais vous ne cuisineriez pour vous tout seul. En imaginant un plat, vous pensez aussitôt à ceux que vous inviterez à le partager. N'est-il pas étrange que vous qui prétendez tenir par-dessus tout à votre solitude, vous retrouviez des heures durant devant vos fourneaux et plus exactement entièrement voués à ceux qui vous mangeront bientôt? Sans doute, avec votre cuisine, voulez-vous les appâter, ceux-là qui vous mangeront bientôt, à moins que ce ne soit vous-même, que vous ne finissiez pas d'apprêter et de travestir afin de vous rendre présentable lorsque vous leur parlerez. Votre visage cru, ils ne le verraient pas. Et vos paroles crues, ils ne les entendraient pas. Votre visage et vos paroles crues seraient trop effrayants et trop magnifiquement perdus pour que quiconque les voit, ils ne les entendent jamais. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Maintenant, il faut le préparer, ce dîner. Vous savez quoi? J'ai quelqu'un pour m'aider.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui invente des menus, disciple du chef Thierry Marx, sacré jeune talent de l'année 2020 par le Goemio, mis en lumière par l'émission Top Chef, étoilé du guide Michelin en janvier dernier. Il n'a pas encore 30 ans, mais il est déjà l'une des sensations du monde de la gastronomie. En cette veille de Noël, il a élaboré rien que pour nous, dans Boomerang et pour France Inter, une carte de fête. Entrée, plat, dessert, bonjour Maurice Acco.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et merci pour ce cadeau. Mais avant toute chose, chez vous, dans votre famille, chez les Acco, qu'est-ce qu'il y avait au menu de votre repas de Noël? Vous vous souvenez?
Alors, ouais, je m'en souviens. Et ça ressemble pas à la table de Noël qu'on s'imagine. Chez moi, il y avait sur la table, déjà on commençait par les pastels. C'est des apéritifs qu'on mange beaucoup au Sénégal, au Mali. C'est des petits beignets en fait, fourrés à la viande, au poisson, frits, avec une petite sauce tomate, oignon, un peu pimenté. Et on commençait par ça. Ensuite, il y avait le tchiboudjen, qui est le plat national au Sénégal, à base d'un poisson qui est braisé, farci avec du persil, et avec du riz qui est cuit. Mais c'est, il passe sa journée à cuisiner pour faire ça. Wow. Ma mère passait à commencer le matin pour être prête à 18h.
C'est votre mère qui cuisinait?
Ouais, c'est ma mère qui cuisinait.
Et pour le dessert?
Et pour le dessert, bah nous, malheureusement, on n'a pas trop de dessert. Donc on enchaînait encore et on prenait un autre plat. Et ça c'est tout le problème, c'est qu'après derrière elle avait un autre plat et généralement elle faisait un genre de soupe, on appelle ça de la pépé soupe, c'est une soupe qui vient de Côte d'Ivoire, c'est une soupe de poisson, c'est à base de tomates et c'est assez pimenté, assez poivré, assez fort et en gros le dessert était une soupe de poisson.
C'est fou parce que vous nous racontez quelque part votre vie à travers ce repas de Noël, cette cuisine familiale, dans quelle mesure diriez-vous qu'elle a durablement marqué la vôtre, encore aujourd'hui?
Bah moi, elle me marque encore aujourd'hui parce que les recettes que je fais quand je m'inspire des recettes africaines, dans 90% des cas, c'est des recettes que ma mère me faisait et que j'ai mangé à la maison, quoi.
Quelle cuisinière est-ce qu'elle était?
C'était une cuisinière, une très bonne cuisinière. Et je dis pas parce que c'est ma maman.
Un peu quand même, mais bon, on vous pardonne.
Mais de la vie de tous les voisins et autres, c'est une femme très généreuse. Quand elle cuisinait, en fait, dans l'immeuble, ça sortait dans tout le hall. Et on avait souvent les voisins qui venaient toquer, ah, comment vous allez et autres. Et souvent, elle faisait des petits doggy bags pour tout le monde. Donc quand il y avait le tchéboudjen qui était fait pour nous, faut savoir que les voisins dessus en avaient, ceux en dessous, celui en face, et tout le monde mangeait tchéboudjen ce soir-là, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez appris en la regardant cuisiner? Quel geste? Quel savoir-faire?
Bah moi, il y a un geste par exemple que je fais quotidiennement et qui est hyper important pour moi au restaurant, c'est l'utilisation du mortier. On l'utilise pas beaucoup en cuisine française, on l'utilise un peu plus en cuisine méditerranéenne, mais l'utilisation du mortier pour piler les épices, pour piler l'ail, pour piler les herbes, et on se rend compte que le goût et les textures sont totalement différentes quand on utilise un mortier à la place d'un mixeur.
Diriez-vous que la cuisine, c'est toujours, Maurice Acco, une histoire de transmission?
Ouais, la cuisine, c'est d'abord la transmission parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne s'écrivent pas et qui se ressentent. Et pour pouvoir ressentir ces choses-là, bah, faut être présent, il faut un échange, quoi, finalement.
Mais enfin, là, on va écrire, parce qu'on est avec vous, et on va transmettre, Maurice Sacco. Après tout, c'est un peu la promesse de cette émission avec vous, pour faire les choses dans l'ordre. On commence donc par l'entrée de ce dîner de Noël que vous nous avez spécialement concocté pour Boomerang. Saint-Jacques rôti beurre blanc aux agrumes et yuzu kocho. Alors, avant toute chose, c'est quoi le yuzu kocho?
Le yuzu kocho, c'est un condiment japonais à base d'agrumes et de piment qu'on fait fermenter, et donc on retrouve du yuzu dedans, un petit peu de piment, et c'est un condiment qui peut servir sur tout, sur des viandes, sur des poissons, et qui marche très très bien avec la Saint-Jacques.
Mais quel goût est-ce que ça a?
C'est un goût qui est donc légèrement pimenté, mais surtout sur l'acidité, et on a un léger goût de fermentation derrière.
Alors c'est intéressant, parce que ça dit quelque chose de votre intérêt pour la gastronomie japonaise, ce dont on avait beaucoup parlé ici même avec le chef Thierry Marx, que vous connaissez bien, puisque c'est un de vos mentors. Totalement. Le Japon, quelle source d'inspiration est-ce que c'est pour vous, pour votre cuisine?
Bah moi le Japon c'est je suis passionné par ce pays, par ce peuple depuis tout jeune, et c'est vrai que la cuisine japonaise, moi dans ce que je fais au quotidien, c'est un peu comme un échappatoire, mon côté un peu où je cherchais le voyage aussi, parce que les cuisines françaises et les cuisines d'Afrique, je les connais très bien, mais cette cuisine japonaise, j'ai dû apprendre à la connaître et j'ai dû l'adopter quelque part.
Vous diriez que vous êtes un cuisinier voyageur?
Ouais, je suis vraiment un cuisinier voyageur là-dessus, à 100%.
Bon, alors on a le yuzu kocho, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par quoi on commence? La Saint-Jacques.
La Saint-Jacques. La Saint-Jacques, c'est le produit de la table des fêtes par excellence. C'est un produit de saison, totalement. Sur le mois de décembre, c'est là où elle est la meilleure. Et la Saint-Jacques, c'est un produit qui se cuit très peu.
Alors d'abord, rassurez-moi, la Saint-Jacques, on la trouve ou pas surgelée, j'espère.
Ah non.
À quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne Saint-Jacques chez le poissonnier?
Une bonne Saint-Jacques, déjà, c'est une Saint-Jacques qui est vivante. Et c'est une Saint-Jacques qu'on peut demander au poissonnier de l'ouvrir, mais quand on l'ouvre, on se rend compte que le muscle se contracte un peu.
D'accord.
Et c'est une Saint-Jacques qui est encore vivante, et c'est une Saint-Jacques qui va être sur sa fraîcheur, donc qui va avoir une texture qui est légèrement claquante.
Alors cette Saint-Jacques, on est censé la rôtir.
Mm.
Alors rôtir, ça ne veut pas dire brûler, je préviens les auditeurs, en particulier Gilles qui nous écoute en Auvergne. Bien rôtir la Saint-Jacques, ça passe par quoi?
Alors ça passe déjà par une poêle bien chaude, parce que la cuisson elle doit être rapide, donc il faut une chaleur. Donc on démarre à l'huile, on la saisit et on va voir la coloration va commencer à se former sur la Saint-Jacques. Et à ce moment-là, on sort du feu, on met une noix de beurre, on attend que le beurre mousse et on arrose.
Oui, parce que vous dites beurre blanc, Maurice Sacco, c'est quoi d'ailleurs un beurre blanc?
Alors beurre blanc, c'est vraiment une sauce, on va dire, traditionnelle du patrimoine français. C'est une sauce à base, d'abord on fait réduire une base de soit de vin blanc, pour ceux qui boivent du vin, sinon on peut remplacer par du vinaigre, pour ceux qui en veulent pas, mais à la base, c'est une réduction de vin blanc et d'échalotes qu'on fait réduire totalement. Et ensuite, on décale du feu et on ajoute du beurre. Et c'est du beurre fondu, en fait.
C'est une émulsion.
Et on fouette, c'est une émulsion de beurre. Et on fouette comme ça, et ça fait une sauce hyper onctueuse, hyper crémeuse, avec une acidité. Donc ça marche super bien avec le poisson. Et qui va venir avoir ce côté un peu nappant, un peu enveloppant.
Mais moi, j'ai un problème, Maurice Sacco. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me lance dans un beurre blanc, ma sauce ne prend pas, elle est comme dissociée.
C'est ça. Et le problème, c'est la chaleur. Faut pas que ça soit trop chaud. C'est pour ça que je dis qu'une fois que c'est réduit, on le fait hors du feu. Et en fait, faut pas que le beurre, comme on dit en cuisine, tranche. Faut pas que ça se sépare.
Et alors, quand c'est tranché, quand c'est séparé, là, je parle pour moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est foutu? On peut le jeter? Ou on
non,
peut le récupérer?
On peut le récupérer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le redescendre en température, donc le retirer du feu, ajouter de la crème froide dedans.
Okay.
Et rajouter un petit peu de beurre. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'avec la baisse de température, ça va commencer à figer légèrement. Et là, on va pouvoir le récupérer.
Donc là, ça je note. Et les agrumes dans tout ça, à quel moment est-ce qu'on les incorpore?
Les agrumes, on les incorpore vraiment au dernier moment. Donc ça peut être à préférence ceux qui veulent vraiment des acidités pointues, un citron jaune, vert. Sinon ça peut être pamplemousse, clémentine, la clémentine qui est en plein dans la saison, c'est
ouais.
Génial la clémentine, on a un côté un peu sucré, en même temps l'amertume aussi.
Et qu'est-ce que c'est le jus, le zeste, la pulpe?
On vient chercher la pulpe. Donc
d'accord.
On fait des suprêmes, donc on pèle à vif et on récupère juste le petit suprême d'agrumes.
Au fond, à travers cette recette, Maurice Sacco, Saint-Jacques rôti beurre blanc aux agrumes et yuzu kocho, qui revisite la tradition en y insufflant une touche nippone, quelle histoire est-ce que vous nous racontez?
Bah, l'histoire que je raconte dans ce plat-là, c'est juste l'histoire d'une cuisine traditionnelle française à laquelle on vient juste apporter ce petit twist par le yuzu kocho qui va venir apporter de la puissance, un côté légèrement piquant. Et tout de suite, bah, en fait, c'est se dire qu'avec un condiment, un poivre, autre chose, on peut tout de suite amener sur une cuisine voyageuse en gardant cette base de cuisine française.
Une cuisine plurielle, en fait.
Totalement.
C'est ça. Cuisine plurielle et pas cuisine fusion. Vous insistez beaucoup sur cette distinction. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous embarrasse avec la fusion?
Bah, la fusion, pour moi, c'est, à dire, un mélange ou un mariage forcé de plusieurs cultures dans un but essentiellement démonstratif. Donc
oui.
Je m'amusais à croiser un sushi au mafé parce que j'ai dit que je faisais le Japon et l'Afrique. Alors que non, on fait pas ça chez nous. On fait pas ça chez Mosuke. On rend hommage à des cuisines. Donc si je m'amuse à faire par exemple, bah, je viens de parler du mafé, le mafé qu'on fait au restaurant,
je fais le mafé d'une manière traditionnelle et à la fin, je vais ajouter du miso, qui est une pâte de soja fermentée japonaise. Mais pourquoi j'ajoute ce miso? C'est pas juste pour dire je mets du Japon dans une sauce africaine. C'est parce que ce miso va venir apporter une rondeur, une complexité et va venir servir cette sauce. Et donc, on ajoute ces influences plurielles juste pour améliorer un terroir ou une cuisine ou une recette.
Passionnant. Vous savez quoi, Maurice Sacco? Moi, j'ai envie de, non pas de fusionner, mais de pluraliser avec Ella Fitzgerald parce que c'est Noël après tout. Et je crois que Gilles, dans l'Allier, Nicole à Aubagne, Karim à Kerbibou sont en train de foirer leur beurre blanc et qu'ils ont besoin de quelques minutes pour se rattraper. Ils pourront réécouter évidemment l'émission en podcast et bien noter comment on prépare cette entrée avant de passer au plat. La Saint-Jacques rôti beurre blanc aux agrumes et yuzu kosho.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Soon we all will be together, if the fates allow. Until then we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
Chef Maurice Sacco, invité de Boomerang ce matin pour parler de cuisine dans cette veille de Noël, mais aussi pour revenir sur votre parcours quand même. À mesure qu'on fait chanter les casseroles et que vous nous livrez ce menu de ce soir, c'est intéressant parce que la cuisine, j'ai l'impression, vous y êtes un petit peu arrivé par hasard, Maurice.
Ouais, je suis totalement arrivé par hasard. Moi, j'ai commencé la cuisine sur un pourquoi pas. Je me suis dit, ça a l'air de te plaire, cet univers est sympa, essaye et tu verras bien.
C'est intéressant de répertorier tout ce qu'on fait sur un pourquoi pas, j'aime bien cette expression. La passion, celle qui vous anime aujourd'hui, comment est-ce qu'elle est venue alors?
Bah moi, elle est venue en faisant ce métier. Vraiment, elle m'est venue un jour, quand j'étais au Royal Monceau, commis à l'époque où j'aimais ce métier, mais je pouvais pas me définir comme passionné. Et un chef qui me lâchait pas et qui a dû voir quelque chose en moi m'a dit, Maury, la semaine prochaine, tu fais un plat. Et j'avais jamais créé de plat, et dans un palace et autres, mon plat que j'allais devoir créer. Donc à ce moment-là, je me suis mis à bûcher, mais sévère, parce que je voulais pas faire n'importe quoi.
Et puis en parlant de bûche, il y a aussi la fois où à l'école Otolia, vous avez cousu une volaille pour la première fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ça, c'est mon tout premier souvenir de cuisine. Et celui-là, je ne l'oublierai jamais. C'est mon premier TP, donc les premiers cours pratiques. Et je me suis retrouvé en tête-à-tête avec une volaille, une aiguille à brider et du fil de boucher.
et on m'a demandé de brider la volaille. Mot que j'avais jamais entendu avant. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et le prof nous a montré, et je me suis dit, on coud un poulet. Et bon, ça s'est bien passé. Mais c'était assez improbable comme moment.
Alors, il se trouve que c'est une volaille que vous avez choisi de nous cuisiner en plat de résistance de ce menu de Noël, et pas n'importe laquelle, une poularde rôtie avec panais confit aux fruits de la passion. Alors, on n'est pas sur un menu végétarien aujourd'hui, Maury. Pour autant, c'est intéressant, à la carte de votre restaurant étoilé, le Mosuke, dans le 14e à Paris, il y a un menu végétarien, je crois. Cuisiner sans viande, quel défi culinaire est-ce que c'est au fond pour vous ?
Cuisiner sans viande, dans les gastronomies que je peux porter, c'est pas forcément le plus évident. Il y a toujours une protéine, quelque chose. Et donc, autant que cuisinier, pour moi, ça apporte un défi supplémentaire. C'est-à-dire, je vais cuisiner sans viande, mais aussi, je vais retirer le beurre, le lait, la crème et un maximum de produits qui sont extraits des animaux. Et au final, c'est un beau défi et je m'amuse beaucoup à le faire.
Et c'est intéressant que vous parliez de beaux défis. En quoi aller vers une cuisine de moins en moins riche en viande, de moins en moins carnée, c'est aussi une nécessité aujourd'hui?
C'est une nécessité parce que on se rend compte maintenant que l'exploitation animale pollue quand même énormément. Et pouvoir réduire ne serait-ce que la portion de protéines animales qu'on consomme sur un repas, c'est hyper valorisant pour le cuisinier, mais c'est aussi important de se dire qu'on peut manger un bon repas, un repas gastronomique, avec moins ou sans protéines animales au final.
Bon, là c'est Noël, on part sur une poularde. Hein.
Ouais, il y a quand même certaines traditions qu'il faut.
Mais qu'est-ce que c'est qu'une poularde, surtout? C'est une vraie question. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui distingue la poularde du simple poulet ou même de la poule? Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette chair?
Alors, ce qui fait la spécificité de la chair de la poularde, c'est que c'est une volaille qui est engraissée et qui grossit beaucoup plus lentement qu'un poulet normal. Et donc, cet engraissement et le fait qu'elle grossisse plus longtemps et plus lentement, au final, ça fait qu'il y a un gras spécifique qui se développe sur la poularde. Et ce gras, il est très particulier. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le chapon, qui est un coq castré. Mais là, c'est plus une volaille qui a eu le temps de grandir, qui a eu le temps de grossir et qui va s'enrichir d'un gras qui est très particulier.
Et avant de la retirer, qu'est-ce que vous lui faites au juste à cette poularde?
Ce que je fais habituellement, c'est que je la frotte avec du beurre, un peu d'épices et du sel.
Je vous interdis de la coudre, Maury, parce que je vous vois venir, vous allez me la brider encore celle-là.
un petit peu bridée, mais c'est juste un petit assaisonnement en surface et à l'intérieur aussi.
Qu'est-ce qu'il faut pour bien réussir sa cuisson d'une poularde?
Moi, ce que je trouve important, c'est que on a tendance à cuire le poulet rôti, comme on le voit souvent à la télé, sur le dos et les blancs au-dessus. Et en fait, pour pas rater une cuisson de poularde, ce qui est intéressant, c'est de la cuire sur le côté. Hein? Donc, on fait une demi-heure ou 20 minutes selon la taille sur une cuisse, puis on la retourne à mi-cuisson et on repart pour une demi-heure, 20 minutes sur l'autre cuisse, parce qu'au fait, les cuisses prennent plus de temps à cuire que le blanc. Donc, le fait de la cuire sur le côté fait que la cuisse est au contact direct avec le fond du plat et ça accélère la cuisson et en même temps, ça protège les blancs.
Est-ce qu'on l'arrose avec un petit vin blanc ou pas?
Alors, non, mais on l'arrose avec de la laque et on vient la laquer régulièrement. Donc, dans cette recette, il y a aussi une laque aux fruits de la passion à réaliser. Et donc, régulièrement, on ouvre le four et on vient avec son pinceau mettre un petit coup de laque dessus.
Attendez, juste avant, moi j'ai un problème, il faut que je vous le dise, j'arrive jamais à faire cuire ma poularde sans salir mon four. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des projections de graisse partout, qu'est-ce que je fais?
Ah bah ça, il faut nettoyer le four.
Non, parce qu'il faut tout prendre en compte, Maury.
Ça là-dessus, ça, il y aura toujours de la projection parce que il y a le gras. C'est une volaille qui est grasse. Donc il y a un moment où le gras il doit aller quelque part et généralement c'est sur les parois du four.
Et le panais, qu'est-ce qu'on en fait du panais? Rôti aussi, comment on le prépare?
Le panais, alors on fait la cuisson en deux temps. Donc il y a un premier temps, on va venir saisir ce panais, donc dans une poêle assez chaude, et on va venir faire ce qu'on appelle un déglaçage. Donc on vient ajouter un liquide pour décoller les sucs. Et là, on va faire un mélange de fruits de la passion et d'eau. On va venir ajouter ça dans le fond de la casserole. Et une fois qu'on a déglacé, on retire, on vient mettre les panais dans le plat avec la volaille, en fait, dans le même plat que notre poularde qui est en train de cuire déjà au four.
Quel thermostat?
180 degrés la volaille. Et on met les panais avec. Et les panais, en fait, vont cuire. Et la volaille, quand elle cuit, relâche du jus de cuisson. Et en fait, ce jus de cuisson va venir imbiber nos panais.
Ok.
Et donc, on va avoir des panais qu'ils ont été laqués avec ce déglaçage des fruits de la passion, mais en même temps qu'ils vont être nourris par le jus de cuisson de la volaille.
Maury Sacco, quel légume est-ce que c'est d'ailleurs le panais pour vous? Qu'est-ce qui en fait l'intérêt culinaire, gastronomique?
Alors le panais, moi l'intérêt vraiment du panais, c'est que c'est un légume, il fait partie des légumes oubliés, mais maintenant ils sont bien revenus, bien installés. C'est un légume qui a une certaine douceur, moi je trouve, il y a une rondeur, il y a ce côté un peu enveloppant.
Pourtant c'est un légume maigre.
C'est ça, c'est un légume qui est pas gras du tout, et au final on se retrouve avec quelque chose d'assez...
C'est toujours bon à prendre, c'est le jour de Noël, on va pas se mentir.
mais c'est assez doux, c'est sucré, et c'est un, mais C'est une sucrosité qui est assez élégante au final, parce qu'on n'a pas l'impression d'être sur un sirop, quoi.
Et puis je parle sous votre contrôle, mais là vous avez choisi de le rôtir, mais on peut en faire plein de choses. Il a plein de déclinaisons possibles.
Oui, le panais, ben, on peut le travailler en purée, on peut le faire en chips. Les épluchures sont aussi intéressantes sur le panais. On peut faire des chips épluchures de panais, c'est super bon. On peut les faire infuser dans de l'eau et ça fait un bouillon d'épluchures de panais. Tout s'utilise sur le panais, quoi.
Mais alors dites-moi, qu'est-ce que ça apporte en fait les fruits de la passion à cette recette? Sinon, un apport non négligeable en vitamine C, je le dis aux auditrices et aux auditeurs de Boomerang.
Le fruit de la passion, ça vient faire le contraste avec le panais, puisque le panais, comme je disais, est assez doux et légèrement sucré, et le fruit de la passion, par son acidité, va venir casser la douceur du panais et la sucrosité, et en même temps casser le gras qu'on trouve dans la poularde. Donc ça vient faire le petit côté un peu une acidité pointue qui vient tlac.
C'est drôle parce qu'à vous entendre, Maurice Sacco, j'ai l'impression que cuisiner pour vous, c'est toujours une affaire de texture.
Ouais, j'adore les jeux de texture et en fait la cuisine, on travaille sur plusieurs plans. On a le plan naturellement du goût, mais on a aussi ces textures en bouche qui font qu'on s'ennuie pas à la dégustation. Donc là, par exemple, un panais, on va prendre le panais rôti, comme ça, il va être mou et puis on va tomber sur une petite graine de fruit de la passion et là, clac, ça va craquer. Et il y a ce côté un peu où on s'ennuie pas à la dégustation.
La poularde rôtie, le panais confit aux fruits de la passion. Non mais moi, je note et on va reparler ensemble de texture, évidemment, de goût, de couleur et de forme. Juste après Nat King Cole, The Christmas Song en 1961, ce qui laisse le temps à notre ami Gilles d'aller arroser sa volaille à la Lisole, parce que lui, il l'arrose, je peux vous le dire. Vous êtes sur France Inter avec Maurice Sacco, vous écoutez Boomerang et avant même le dessert, vous êtes en train de vous régaler.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow, we'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
France Inter, Boomerang.
Augustin Trapenard.
Bah avec lui, on signe sans hésiter. Un commis, éplucheur ou plongeur, on dit oui tout de suite, même aux tâches les plus ingrates. Avec son sourire, tout est possible. Son regard plein de bienveillance et son chic aussi. Tout en veste, en jean et sweatshirt à capuche. Le chef Maurice Sacco, invité de Boomerang ce matin pour mettre le feu à vos papilles. Après l'entrée, la Saint-Jacques rôti beurre blanc aux agrumes et yuzu kosho. Le plat, ma chère poularde rôtie avec panais confit aux fruits de la passion. Voici le moment du dessert. Alors moi, je m'attendais à une bûche. Ou à la rigueur, à une bûchette, vous me connaissez. Et vous nous avez surpris, en sortant des sentiers battus, vous nous avez préparé une poire qui, cette fois, n'est pas rôtie, mais pochée au bissap avec granola. Peut-être qu'il faut d'abord nous rappeler ce que c'est qu'un fruit poché.
Alors, un fruit poché, c'est un fruit qu'on cuit, généralement dans un sirop. Et c'est une cuisson assez douce, limite comme si on voulait la confire dans un sirop. Et puis après, bon, bah, ce sirop, on l'aromatise comme on veut.
Mais est-ce qu'on peut pocher autre chose que des fruits, par exemple ma poularde, est-ce qu'on aurait pu la pocher ou
oui,
pas?
Oui, la poularde pochée, c'est un plat qui marche super bien. Bah, la poule au pot, par exemple, c'est une poularde pochée.
Ça aurait donné une poule au pot. Voilà. Quel est l'avantage de ce type de cuisson? Que permet le pochage par rapport à une cuisson à la vapeur, par exemple?
Bah, le pochage, ça permet d'imbiber le produit et de lui apporter un goût supplémentaire par l'imprégnation.
D'accord. Donc là, en l'occurrence, vous avez choisi de pocher vos poires. On les poche entières ou on les coupe en deux?
On les poche entières, donc on épluche et puis après, directement, on vient la pocher.
Pourquoi?
On la cuit entière pour avoir une cuisson où on va avoir plusieurs textures, justement, où l'extérieur va commencer à cuire et va être fondant. Mais à cœur, la poire, elle, va rester croquante, presque comme crue.
Et alors, on les poche dans du bissap. Alors, ce qui mérite quand même une explication, hein, ne serait-ce que pour Nicole qui n'a jamais quitté Aubagne, qu'est-ce que c'est le bissap que vous déclinez dans votre cuisine sous différentes formes et notamment sous forme de sorbet, je crois.
Ouais. Bah, le bissap, c'est un peu la boisson d'Afrique de l'Ouest. C'est une infusion d'hibiscus, donc de fleurs d'hibiscus séchées, qu'on fait infuser et derrière qui est sucrée et dans laquelle chaque famille a sa recette, on va dire. Mais généralement, on peut se trouver un peu de vanille, des herbes, donc généralement de la menthe. Et moi, au restaurant, quand je la fais, par contre, je vais mettre de la vanille, du poivre, de la fève de tonka, de la menthe, mais aussi du basilic et du shiso.
Pour arriver jusqu'à quelle couleur?
En fait, on arrive sur un rouge très intense qui est proche de la couleur du vin rouge.
C'est une plante qui se prête à plein d'alliances, de types d'alliances?
Oui, c'est une plante qui s'utilise, là, elle est utilisée pour le bissap, la fleur d'hibiscus, mais elle s'utilise sur tellement d'alliances parce qu'au final, une fois infusée, ça apporte une acidité assez pointue. Donc, on peut faire une vinaigrette à l'hibiscus, on peut faire des sirops à l'hibiscus, mais des sirops assez réduits qui vont garder de l'acidité parce que c'est acide de base. On peut faire, par exemple, mariner un saumon dans de l'hibiscus parce qu'avec l'acidité, ça va légèrement commencer à le cuire.
J'adore.
Et puis lui donner une couleur rouge. On peut s'éclater avec l'hibiscus.
J'adore, Maurice Sacco, parce que vous dites, on peut s'éclater et on voit dans vos yeux qui brillent que cuisiner, c'est aussi cette idée d'inventer des nouvelles alliances tout le temps, j'ai l'impression.
Ouais, bah là, en 10 ans, j'étais parti, moi. Hein. J'aurais pu te faire 10 minutes sur l'hibiscus. mais c'est vrai que moi, c'est un jeu de constituer des nouvelles alliances. Et puis, quand j'ai un nouveau produit, je suis comme un gosse parce que je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec et comment je vais pouvoir le travailler.
Mais attention à l'alliance contre nature.
C'est ça. Il y a des alliances qui sont contre nature et généralement.
Bah, le sushi au mafé, moi, j'ai retenu. Une cata.
Le sushi au mafé, non.
Il n'y a pas d'autre mot. Quelle est la première alliance culinaire et peu commune par laquelle vous soyez laissé surprendre, vous?
Jusqu'à peut-être l'âge de 20 ans, j'étais incapable de manger un pamplemousse. Oh. C'était trop amer pour moi. Je n'arrivais pas, c'était impossible. Et un jour, on m'a fait goûter un saumon avec du pamplemousse et du poivre de Timut. Et là, en fait, saumon agrume, c'est une association qui est classique, mais moi, avec le pamplemousse, j'étais assez réticent. Et quand j'ai goûté cette association, bah, tout de suite, là, en fait, c'est comme si des portes s'étaient ouvertes à moi. En fait, ça peut être bon, le pamplemousse.
Mais est-ce qu'il arrive que la porte se ferme? Est-ce qu'il y a une pire alliance que vous ayez tenté, vous, en tant que chef, et qui n'a pas fonctionné?
Ah ouais, il y a des pires alliances, je les collectionne. Hein, à force de tester des choses, les clients ne les verront jamais, celles-là.
Des dangereuses alliances. Lesquelles, par exemple?
Je m'étais amusé une fois, on fait souvent des tests aussi en fermentation et sur des fumages. Donc je m'étais amusé à me dire, qu'est-ce que je peux faire avec une pomme de terre? Et je me suis amusé à la fumer.
Question qu'on se pose régulièrement dans le monde.
Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que je peux faire avec une
pomme de
terre?
J'ai une pomme de terre. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'une purée ou des chips? Ouais. Et à ce moment-là, je me suis amusé à dire, tiens, je vais la fumer. Et une fois que j'ai fumé, je me suis dit, c'est pas assez. Donc je vais la faire fermenter avec du piment. Mais normalement, le piment que j'utilisais était une variété de piment doux. Mais mon producteur, c'est un peu un artiste incompris. Et des fois, il me dit, ce piment est doux. Mais le piment n'est pas doux du tout. Et du coup, j'ai laissé 3 semaines. Et le jour où je l'ai goûté, mais j'ai frôlé la mort. C'était mais un piment, mais tellement fort. Et j'ai plus rien goûté toute la soirée après, quoi.
J'espère que ça va pas être le cas de votre bissap. Qu'est-ce qui va venir apporter à la poire, le bissap?
Alors, le bissap, ce qui va venir apporter à la poire, faut savoir que ce bissap, on l'infuse donc un peu avec un bouquet d'épices, un peu à la manière d'un vin chaud. Donc comme c'est Noël, on va mettre les mêmes épices qu'on trouve dans le vin chaud, donc cannelle, de l'anis étoilé, un petit peu de clou de girofle. Ce que le bissap va apporter, ça va être déjà une belle couleur rouge. On va avoir comme une poire pochée au vin rouge, vraiment une poire qui sera super rouge. Donc c'est beau pour Noël.
Ouais, c'est vrai.
Et ça va apporter tout le parfum de ces épices qu'ils ont infusé dedans, avec l'acidité de l'hibiscus.
Et le granola.
Donc le granola, lui, vient pour apporter le côté croustillant. Mais à la base, je réfléchissais, je voulais pas faire une pâte riche, un peu grasse, en beurre et autres. Donc je me suis dit, tiens, un granola, c'est bien. avec toutes les graines qu'on peut trouver. Et vraiment, le granola, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper flexible, en fait. On y met ce qu'on veut. On peut faire un granola avec des graines de lin, de tournesol, de l'avoine.
C'est la vraie question. Qu'est-ce que c'est, au fond, un granola? Parce que j'avoue, pour moi, c'est non seulement quelque chose d'assez abstrait, mais c'est aussi quelque chose qu'on fabrique pas soi-même, qu'on achète tel quel dans le commerce. Et là, je préviens Gilles, hein, on parle pas du biscuit granola, mais bien du granola. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre granola, à vous, Maurice Sacco?
Alors moi, le granola que moi je fais, c'est que en plus de toutes les graines qu'on peut trouver, donc moi, j'ai du tournesol, des graines de courge, des graines de lin, du sésame, un petit peu d'avoine, et on vient légèrement le faire, en fait, torréfier comme ça, en ajoutant un petit peu de sucre. Et ça va légèrement caraméliser, ça va lui apporter une petite texture craquante, comme si on avait un caramel un peu craquant. Et au dernier moment, je vais ajouter du poivre dedans.
Okay.
Donc, j'utilise du poivre de Madagascar. Et c'est un poivre qui a des notes un peu de fruits rouges. Et ce poivre va venir apporter, mais une puissance et une ampleur à ce granola qui est juste à la base des graines torréfiées légèrement sucrées. Ça vient de lui apporter une complexité et une aromatique beaucoup plus profonde.
Alors on a poché la poire, Maurice Sacco, on a préparé le bissap, le granola. Comment est-ce qu'on présente tout ça dans l'assiette? Parce que chaque étape compte, hein. Surtout pour Karim qu'on a complètement perdu depuis l'histoire d'Alliance contre Nature à Kerbibul. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour vous une belle assiette, je me suis demandé?
C'est une assiette, déjà, quand on la regarde, on a envie de la manger. Et je dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de plats moches, mais c'est juste qu'une assiette qui nous donne envie. Et là, par exemple, pour cette poire, l'idée, c'était juste d'avoir le produit dans sa forme brute. Donc, on va garder la poire sous sa forme classique. Pour les plus doués, garder le petit oignon au-dessus qui dépasse pour vraiment avoir la poire totale. Et dans le fond, on va venir mettre ce petit granola comme si elle était posée dans la terre, en fait, cette poire. Et on va venir juste avoir la poire comme ça, un peu, qui trône au milieu de ce granola. Et on va se dire, on cherche pas 40 minutes ce qu'on doit manger, on attaque la poire. Et là, on a juste ce côté un peu instinctif, primaire, où on mange et on attaque, quoi.
Est-ce que tout ce qui est beau est forcément bon?
Malheureusement, non. Il y a des choses où, pour que ce soit beau, il va falloir, par exemple, mettre un peu plus de gelée, mettre un peu plus de choses. Et donc, le goût va en pâtir. Ah. Donc, des fois, vaut mieux privilégier le goût que, justement, quelque chose de beau.
Mais restons sur la beauté. Qu'est-ce qui fait pour vous la beauté de votre métier, Maurice Sacco?
Moi, la beauté de mon métier, c'est avant tout la liberté de création qu'on a. En vrai, moi, je suis le matin, je reçois une carotte, et avec cette carotte, je peux faire tout ce que j'imagine pouvoir faire et le proposer à mes clients. Donc, on a une liberté de création qui est totale, et on a ce retour qui est direct au final, parce que le client va la manger, et tout de suite, ou c'est bon, ou j'aime pas, ou c'est bizarre, ou c'est... Mais on a un retour direct sur son travail, et c'est assez beau d'avoir cette petite reconnaissance au quotidien.
On l'a entendu, on l'a vu, on l'a goûté avec cette poire pochée au bissap avec granola, qui était votre dessert du dîner de Noël. Merci infiniment.
Merci.
Maurice Sacco d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre restaurant à Paris, 14e, s'appelle Mosuke, et qu'il est ouvert toute l'année, pas à Noël, mais toute l'année. Merci pour ce cadeau, ce menu de Noël que les auditeurs et les auditrices de Boomerang peuvent retrouver en réécoute sur les sites de France Inter et en podcast, parce que moi, je vous le dis tout de suite, je cuisine ça ce soir. J'ai pris des notes, merci à vous, et merci à toute l'équipe de Boomerang cette semaine. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Arbillot, Pierre Démé, Jérôme Humbert, Jean-Baptiste Audibert. Bonne fête à tous, 9h40 sur France Inter. L'instant M, Sonia De Villers. Joyeux Noël, Sonia.